de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ? Qu'est-ce que ça va changer ?
Sophie Joubert.
Bonjour à tous et bienvenue. Au mois de janvier 1935, Deborah Lifschitz et Denise Paulm quittent Paris pour rejoindre le village d'Ogon de Sanga, au Soudan français, dans l'actuel Mali. La mission Sahara-Soudan est dirigée par l'ethnologue Marcel Griol, qui revient en pays d'Ogon pour compléter des recherches entamées 3 ans plus tôt. Mais les deux femmes vont rester sur le terrain bien plus longtemps que leurs collègues masculins et conduire leur propre mission. Les lettres envoyées en France par Deborah Lifschitz et Denise Paulm sont des documents précieux qui permettent de comprendre la naissance d'une nouvelle discipline, l'ethnographie. Quel était le rôle des femmes? Comment étaient-elles perçues par les populations locales? Comment étaient-elles considérées au sein de leur propre champ disciplinaire? Quelles étaient leurs méthodes de travail? Comment ont-elles exercé leur métier dans un contexte colonial? Quelle est la singularité de leurs publications? Comment Deborah Lifschitz a-t-elle été déportée à Auschwitz? Autour de la question « Qui sont les pionnières de l'ethnographie française ?», la réalisation est signée Cécile Bonici. Bonjour Marianne Lemaire.
Bonjour.
On entre tout de suite dans le vif du sujet avec ces rythmes de danse de masques d'Ogon collectés entre 1931 et 1933 par l'ethnomusicologue André Scheffner lors de la mission Dakar-Djibouti. Alors Marianne Lemaire, vous êtes anthropologue au CNRS, membre de l'Institut des mondes africains et vos recherches portent sur l'histoire de l'ethnologie, notamment sur les femmes qui ont investi la discipline dans l'entre-deux-guerres et vous présentez le recueil Lettres de Sanga publié par les éditions du CNRS qui regroupe les lettres de Denise Paulm et Deborah Lifschitz écrites lors de leur mission au Soudan français en 1935. Est-ce qu'on peut situer Sanga sur une carte ?
Oui, Sanga se situe au sud du Mali actuel, à l'est de Mopti, dans les falaises de Bandiagara.
Alors, où en était l'ethnologie à l'époque ? Écoutez la voix de Denise Paulm, enregistrée en août 1993 sur France Culture.
En 34, s'est trouvée l'occasion d'une bourse Rockefeller pour un étudiant en ethnologie pour préparer une thèse de doctorat. Or, il s'est trouvé que j'étais pratiquement, je pense, la seule à ce moment-là à avoir une licence, puisque je venais de décrocher ma licence en droit, sans douter le moins du monde que ça pourrait m'être d'ailleurs d'une utilité pratique. L'idée que je pouvais, moi, décrocher une bourse qui était, si je me rappelle bien, de 50 000 francs, me paraissait tout à fait hors des possibilités. Mais reste que j'ai obtenu la bourse et il était convenu que j'accompagnerais donc la mission Sahara-Soudan que Marcel Griol préparait à ce moment-là pour retourner chez les Dogon, compléter sa documentation en vue de sa thèse à lui de doctorat de lettres qu'il devait soutenir sur les masques Dogon. Donc, j'allais accompagner Griol avec ma collègue Deborah Lifschitz et il était entendu que nous resterions sur le terrain, chez les Dogons, après le départ de Griol qui ne pouvait s'absenter que quelques semaines et que nous resterions le plus longtemps possible de manière à, mon Dieu, faire un travail d'ethnographie un peu plus poussé que ce qui avait jamais été fait jusqu'alors.
Elles sont restées combien de mois sur le terrain, Marianne Lemaire ?
Elles sont restées précisément 9 mois sur le terrain, toutes les deux. Donc Marcel Griol, comme le dit Denise Paulm dans cette interview, est resté environ 8 semaines. Et Deborah Lifschitz et Denise Paulm sont restées 7 mois supplémentaires.
Et donc elles ont mené leur propre mission qui deviendra la mission Paulm-Lifschitz.
Oui, c'était d'ailleurs un enjeu. Cette mission Paulm-Lifschitz aurait pu rester d'une certaine manière la mission Sahara-Soudan dirigée par Marcel Griol et je pense qu'elles ont senti la nécessité de poser leur marque, d'affirmer leur mission comme la leur et pas comme une sorte d'appendice de celle de Marcel Griol.
Voilà, il y a eu une scission sur le terrain à un moment.
C'est vrai, oui. Ça, on ne sait pas exactement ce qui s'est pas très bien passé, mais on peut imaginer que Marcel Griol s'est montré peut-être un petit peu autoritaire à leur égard, a voulu précisément les placer sous sa coupe, et que si Deborah Lifschitz n'y s'est pas forcément opposée dans la mesure où elle avait déjà participé à la mission Dakar-Djibouti avec lui et qu'elle avait été véritablement son assistante, Denise Paulm, elle, n'a pas vu ça d'un très bon œil et a souhaité plus d'autonomie, plus d'indépendance dans sa manière de mener ses recherches.
Qu'est-ce qui vous a mené, Marianne Lemaire, vers ces deux femmes en tant qu'historienne de l'ethnologie? Et comment avez-vous rassemblé le corpus de ce livre?
Alors, je me suis tout d'abord intéressée à Denise Palm, que les ethnologues africanistes aujourd'hui connaissent bien dans la mesure où elle a traversé le siècle. Elle a travaillé jusqu'à la fin du XXe siècle. Elle est morte âgée en 1989. Et puis, à travers elle, j'ai découvert que de nombreuses femmes avaient investi l'ethnologie dans l'entre-deux-guerres. Car à une époque où peu de femmes se lançaient dans des disciplines scientifiques, étaient acceptées par ces disciplines scientifiques, de nombreuses femmes en ethnologie étaient présentes, ont fait des missions, ont produit des écrits scientifiques et ont ensuite fait des carrières.
Et la nouveauté vraiment de ce recueil, puisque une partie de ces lettres de Sanga avait déjà été publiée, la nouveauté c'est l'ouverture du fonds Deborah Lifshitz qui appartient aujourd'hui au Mémorial de la Shoah.
En effet, on m'avait dans un premier temps demandé de rééditer les lettres de Sanga que Denise Palm elle-même avait publiées aux éditions Fourbi en 1992, ce à quoi je me suis attelée, et en travaillant pour pouvoir faire un travail d'édition critique, en travaillant sur la mission Palm-Lifshitz de 1935, je me suis aperçue qu'il y avait dans les archives de nombreuses autres lettres écrites par Deborah Lifshitz ou Denise Palm à d'autres personnes ou bien reçues par elle sur le terrain. Et bon, ça a été un premier réaménagement du projet que j'ai eu de réédition de ces lettres. Et enfin, j'ai découvert le fonds Deborah Lifshitz qui contenait toutes les lettres écrites par Deborah Lifshitz à sa mère et à sa sœur qui se trouvaient alors en Pologne. Ces lettres étaient en russe, donc il s'agissait de les traduire.
Puisqu'elle était d'origine russe.
Elle était absolument, oui. Et elle communiquait en russe avec sa mère.
Donc ce sont ces lettres que vous reproduisez dans l'ouvrage?
Absolument, ce sont ces lettres qui sont reproduites dans l'ouvrage et qui se trouvent au Mémorial de la Shoah, dans la mesure où le Mémorial de la Shoah a acheté ce fonds d'archives en Israël très récemment, en Israël, où la mère et la sœur de Deborah Lifshitz avaient émigré en 1936.
Alors, comment ces deux femmes, Denise Palm et Deborah Lifshitz, sont-elles arrivées à l'ethnologie? Donc, l'une, Denise Palm, fait des études de droit, l'autre, Deborah Lifshitz, fait des études de linguistique, elle a aussi fait des études de bibliothécaire, tout simplement pour gagner sa vie. Une figure est extrêmement importante, on a parlé de Marcel Griol, mais c'est un autre Marcel, Marcel Mauss. Écoutez la manière dont en parle Denise Palm, c'était toujours dans le même entretien sur France Culture en 1993.
Je crois bien que Mauss lui-même était vu avec une certaine indulgence par plusieurs collègues qui voyaient en lui un vieux bohème un peu, le neveu évidemment d'Émile Durkheim, mais qui était évidemment un homme assez marginal, assez en dehors du commun. Il faisait un cours sans notes, ça absolument pas, il arrivait les mains dans les poches et à propos d'un sujet déterminé, il avait souvent des incidents, des traits absolument fulgurants. À propos des systèmes de parenté en Australie, qui faisaient évidemment systèmes de parenté primitifs qui faisaient partie du cours, et il pouvait très bien vous parler de souvenirs d'enfance qu'il avait, de son enfance à Épinal, de sa grand-mère, de son grand-père rabbin, etc. Ou bien, à un autre propos, il évoquait la littérature. Je me souviens qu'une fois, il avait longuement épilogué sur un passage d'Anna Karénine. Et c'était véritablement passionnant.
Voilà, et vous reproduisez, Marianne Lemaire, dans l'ouvrage deux lettres écrites à Marcel Mauss, alors que les deux femmes sont en mission.
C'est vrai, on sent tout à fait la dimension affective qui lie Marcel Mauss et ses deux élèves, je pense beaucoup d'autres en fait. Marcel Mauss a été très important pour tous les futurs ethnologues qui se forment dans l'entre-deux-guerres et en particulier les femmes.
Alors comment Denise Palm et Deborah Lifshitz se rencontrent-elles et comment forment-elles le projet de partir ensemble, puisque Deborah Lifshitz était déjà partie justement avec Marcel Griol en 31 en Abyssinie et donc là elle décide de repartir avec Denise Palm, donc Deborah Lifshitz était un tout petit peu plus âgée.
Oui, effectivement Deborah Lifshitz avait 2 ans de plus que Denise Palm.
Donc elle est plus expérimentée aussi.
Un petit peu, elle est beaucoup plus expérimentée puisqu'elle a déjà fait une mission, ce qui n'est pas le cas de Denise Palm. Elle se rencontre au musée d'ethnographie du Trocadéro, qui est à cette époque en cours de rénovation sous la direction de Georges-Henri Rivière, à qui elles vont écrire aussi, et qui est lui-même le sous-directeur du musée d'ethnographie du Trocadéro, Paul Rivet étant son directeur.
Et donc le musée du Trocadéro deviendra le musée de l'homme.
Tout à fait, en 1938.
Et donc comment elles font le projet de partir ensemble?
Denise Paulm, comme elle le dit dans son interview, avait une licence. C'était aussi le cas de Deborah Lifshitz, mais je pense que le problème pour Deborah Lifshitz, même si je n'en suis pas tout à fait sûre, c'est qu'elle n'avait pas encore la nationalité française.
Elle l'aura en 37, je
c'est
crois.
C'est ça, oui. Elle est en début 37 après trois tentatives. C'est la quatrième tentative qui est heureuse. Donc elle se rencontre au musée d'ethnographie du Trocadéro, où ensemble, en fait, elle travaille principalement au département d'Afrique noire à enregistrer les objets nouvellement arrivés, à les cataloguer. Voilà, elles sont...
Travail de petite main un peu, hein.
Un peu travail de petite main. D'ailleurs, Denise Paulm, dans un des articles qu'elle écrit où elle raconte ses souvenirs, dit « Je me revois encore balayant les couloirs du musée ». Mais elles n'ont pas fait que balayer les couloirs du musée.
Alors, quel est le contexte de l'époque pour les femmes qui veulent faire de l'ethnologie? Est-ce qu'il est naturel de partir à deux quand on est deux femmes, sans hommes? On en parle juste après Rokia Traoré, Beautiful Africa sur RFI. La guinée kauka kele a kwake la nimisa Koma zaire kaube kele mina a kobe kya nimisa Kele manyinde dusu manyinde O mansaba nesonsu maya langa dusu maraye
et l'intégrité, l'assurance, la dignité et l'humilité grandissantes dans le cœur de tes enfants. Par la justesse de leurs actes, par leur union et leur constance, connivence et respect mutuel, ils te soulageront des mots qui te rongent. Je t'aime, Afrique. Afrique, je t'aime. Quelle est ma idée? Battered, wounded Africa, why do you keep the role of the beautiful, naive, deceived? Yet my faith doesn't know failure, more intense than ever. My faith doesn't know failure. I love you, beautiful Africa. Afrique, je t'aime. I love you, beautiful Africa. You're beautiful, Africa. Hey, yeah, 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 yeah. Quelle est ma idée de sauter Codilla?
Rokia Traoré, Beautiful Africa sur RFI. Autour de la question, qui sont les pionnières de l'ethnographie française? Alors, en 1934, un an avant la mission Paulm-Lifshitz, une autre mission conduite par deux femmes part en Afrique du Nord, dans les Aurès, c'est la mission Rivière-Tillon, du nom de Thérèse Rivière et de Germaine Tillon, une autre étudiante de Marcel Mauss. Écoutez la voix de la grande Germaine Tillon, c'était en 2003 sur RFI.
Ce qu'on leur appelait les tribus, j'ai plutôt envie d'appeler ça une petite république, car c'était déjà très démocratique. Bon, c'était donc une démocratie comme ont été les premières démocraties grecques, c'est-à-dire des clans. qui sont d'unité familiale, obéissant aux représentants de l'ancêtre, et d'autant plus fort qu'ils ont beaucoup d'hommes armés pour les représenter. Exactement comme les clans écossais, ou comme les éléments constitutifs des petites républiques grecques ou italiennes. J'étais tout de même à 14 heures de cheval d'une prise de courant, par exemple. Il est certain que j'avais évidemment aucun moyen d'éclairage, que j'ai habité pendant un certain temps sous une tente, mais c'était une tente qui était sur une pente extrêmement rude et sur laquelle, quand il pleuvait, ce qui n'arrivait pas souvent, mais quand ça arrivait, c'était très violent. Et moi, je me disais, bon, oui, mais là, je suis à côté d'une belle source, une source si belle. Elle était plus grosse que mon bras et elle jaillissait de rochers. Et il n'y a rien au monde de plus beau, de plus envoûtant, de plus enchanteur qu'une source qui sort d'un rocher. Dans un pays saharien, c'est une merveille du monde.
Alors c'est magnifique ce témoignage de Germaine Tillion, mais en même temps, quelles conditions de vie et de travail sur le terrain pour ces femmes à l'époque, Marianne Lemaire ?
Oui, c'est vrai. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on préférait qu'elles partent à deux plutôt que seules. Enfin, on estimait que seules, ce serait trop dangereux. Et à deux, avec un collègue masculin, on estimait...
Ce n'était pas correct.
Si cette personne n'était pas l'époux de l'ethnologue femme, on estimait que ce ne serait pas correct. Du coup, elles partaient souvent à deux. Bon, dans le cas de Germaine Tillion et Thérèse Rivière, elles se sont souvent séparées sur le terrain de manière à couvrir un espace plus important. Et là, je pense que l'épisode dont parle Germaine Tillion, elle précisément, elle est toute seule sur le terrain et sa collègue est un petit peu plus loin. En même temps, enfin, je pense que si Germaine Tillion parle comme ça, c'est aussi qu'elle, c'est longtemps après. Je pense que sur le moment, elle n'avait pas tendance à présenter leur expérience de terrain comme une expérience dangereuse ou à risque. Elles avaient plutôt tendance à minimiser les risques qu'elles avaient encourus de manière à ne pas apparaître comme des aventurières. Et là, je pense que si Germaine Tillion le fait, c'est que sa carrière est derrière elle et qu'elle peut se permettre de se présenter comme une presque aventurière.
Alors, Denise Paumé et Déborah Lifshitz partent en janvier 35, donc avec la mission Sahara-Soudan, dirigée par Marcel Griol. Donc le voyage va durer 15 jours, elles vont traverser le Sahara. Comment arrivent-elles à Sanga, dans quelles conditions ?
Alors elles arrivent en terrain connu, enfin, elles pas exactement, mais c'est le cas de Marcel Griol, qui était déjà venu en pays d'Ogon pendant la mission de 1931-33, la mission Dakar-Djibouti. Déjà, pendant Dakar-Djibouti, il était resté plus longtemps sur place parce qu'il avait été complètement séduit par la population et par ses rituels. Donc il avait prolongé son séjour en pays d'Ogon et il s'était promis d'y retourner, ce qu'il fait en 1935 dans le même village, le village de Sanga, un village qui est choisi notamment parce qu'il se trouve non pas au milieu de nulle part, mais que des routes l'y conduisent et que c'est à la fois un village isolé et puis en même temps connu à cette époque.
Est-ce que les deux femmes arrivent avec un projet d'étude très clair en tête ? L'une a plutôt travaillé sur les structures de parenté, l'autre sur les langues. C'est Déborah Lifshitz.
Alors une attente très forte pesait sur elle, comme la même attente qui pesait d'ailleurs sur l'ensemble des femmes ethnologues et qui justifie d'ailleurs, c'est un des éléments qui justifie le fait que tant de femmes ont pu investir la discipline à cette époque-là. Il s'agissait pour elles de travailler sur la vie féminine. Mais ce n'est pas ce qu'elles ont fait, elles ont fait d'autres choix. Elles ont travaillé, pour ce qui concerne Déborah Lifshitz, sur l'organisation sociale et économique du village, et pour ce qui concerne Déborah Lifshitz, sur les langues, elle était linguiste de formation, et elle a recueilli des textes de littérature orale, des contes, des devinettes pendant son séjour.
Donc elles se sont réellement émancipées. Alors on va voir comment la mission Paume-Lifshitz a été reconnue comme une mission à part entière. Marianne Lemaire, vous restez avec nous. Je rappelle que les lettres de Sanga sont publiées par CNRS Éditions. On se retrouve dans quelques minutes, juste après les informations.
Sophie Joubert.
Autour de la question, qui sont les pionnières de l'ethnographie française, avec Marianne Lemaire, anthropologue au CNRS et membre de l'Institut des mondes africains. Vous avez édité, présenté les lettres de Sanga, parues aux éditions du CNRS. Les lettres écrites par Denise Paume et Déborah Lifshitz, alors qu'elles étaient en mission au Soudan français en 1935. Nous avons brièvement évoqué la figure de Michel Léris, à qui Déborah Lifshitz et Denise Paume écrivent très régulièrement en tant que collègue et aussi en tant qu'ami. Michel Léris, écrivain et ethnologue, écoutez sa voix sur France Culture en 1968. Il était interviewé par Paul Chavas.
Je ne dirais pas du tout que j'avais à ce moment-là l'intention de devenir un ethnographe professionnel, mais je voulais absolument changer d'atmosphère, prendre contact avec une autre civilisation que la civilisation occidentale, que, comme tous les surréalistes, je peux presque dire que je vomissais. Parmi les injustices sociales, enfin, celle qui m'a toujours le plus révolté, c'est l'injustice coloniale. Le mépris qu'ont des gens qui se trouvent tenir le haut du pavé parce qu'ils sont peut-être de meilleurs industriels que d'autres, c'est tout. Ce mépris, enfin, dont ils écrasent des gens au moins aussi civilisés qu'eux, enfin, d'une façon différente, et qui, à beaucoup d'égards, même pourrait leur donner des leçons. Un jeune ethnologue, qu'est-ce que lui apprennent ses maîtres ? C'est qu'il faut qu'il soit en bon terme, il ait des rapports, sinon amicaux, du moins cordiaux, avec les gens qu'il étudie. Alors, si j'ai ces rapports cordiaux avec eux, et que ça reste une chose de pure surface, je suis le dernier des hypocrites. Donc je crois que si j'ai ces rapports extérieurement cordiaux, il faut aussi qu'il le soit profondément. Donc, de fil en aiguille, je suis amené à épouser les soucis, les revendications des gens que j'étudie.
Michel Léris, auteur de l'Afrique fantôme et de l'âge d'homme, et puis on a eu envie de mixer sa voix avec un petit morceau de Coleman Hawkins. Le morceau s'appelle précisément Picasso. On est vraiment dans l'époque. J'en profite pour signaler que le Centre Pompidou-Metz propose en ce moment une exposition intitulée Léris & Co, donc consacrée à Michel Léris et à toutes les figures d'artistes qui ont gravité autour de lui. Quelle est l'importance de Léris dans cette histoire, Marianne Lemaire?
Alors, en 1935, il est celui qui a participé, qui a été le secrétaire archiviste au moment de Dakar, Djibouti. Et il est censé être le tuteur, d'une certaine manière, de Déborah Lifshitz et de Denise Paume pendant tout le temps où elles resteront seules sur le terrain. Donc, il était convenu entre eux qu'ils s'écriraient réciproquement une lettre par mois. Ce qu'ils font assez régulièrement, enfin, elle plus que lui, mais malgré tout, il leur a régulièrement répondu. Et ce qui est amusant, c'est que Léris, avec tout le respect qu'il avait à leur égard, en fait, n'arrive pas vraiment à être leur tuteur. Quand il leur donne des conseils, il se reprend presque aussitôt en disant « Oh oui, mais ça, enfin, je vous dis ça, mais vous l'avez certainement déjà fait. » Donc, il se comporte beaucoup plus en ami.
En ami.
L'ami qu'il est déjà pour Déborah Lifshitz et qu'il sera pour Denise Paume. Il se comporte plus en ami que comme guide ou comme tuteur.
Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à un moment, elles vont doubler leurs fiches de terrain, les recopier et les envoyer à Léris pour qu'il les sauvegarde. Est-ce qu'elles ont peur de se faire voler leur matériel de travail ?
Les fiches étaient réalisées sur des fiches manifold qui avaient chacune un double. Et en fait, Déborah Lifshitz et Denise Paume avaient été choquées de voir que Marcel Griol, lorsqu'il avait quitté Sanga, ne leur avait pas laissé le double de ses fiches. Et donc avait manifesté d'une certaine manière son non-désir de travailler avec elle, de prolonger la collaboration. Et donc, elles n'ont pas envie, en retour, de lui envoyer ses fiches à Paris, ce qui serait pourtant plus prudent pour le cas où il arriverait malheur aux originaux.
Elles s'en méfient.
Elles se méfient de l'usage qui pourrait être fait par Marcel Griol de fiches dont elles ont le sentiment, à juste titre, d'être les auteurs. Et elles préfèrent les envoyer à Michel Léris.
Alors, un mot quand même sur Marcel Griol, qui apparaît dans ce livre et dans cette correspondance comme un personnage assez antipathique, en réalité, qui méprise un peu ces deux femmes qui viennent sur le terrain, sur son terrain en quelque sorte.
Alors antipathique, non. Je pense que c'était un personnage autoritaire. Enfin, surtout un personnage qui a voulu. Enfin, il y a des formules un peu énigmatiques dans les lettres où Deborah Lipschitz dit vous avez sans doute. Elle s'adresse à Michel Léris. Vous savez sans doute comment Marcel Crayol nous a installés entre guillemets sur le terrain. Enfin, apparemment, il a voulu les situer à une certaine place et il souhaitait qu'elles n'en bougent pas. Et c'est peut-être à cela qu'elles se sont opposées. Et donc, c'est sans doute la raison de la tension qui est née à Sanga en 1935 et qui n'a cessé de grandir ensuite.
Alors, nous n'avons malheureusement pas retrouvé la voix de Deborah Lipschitz dans les archives de l'INA. En revanche, nous avons enregistré l'une des lettres de Sanga qu'elle écrit à sa mère et à sa sœur. Écoutez, la voix est celle de Caroline Fillette.
Sanga, 8 mars 1935. Mes chéris, j'ai reçu avec le dernier courrier votre carte postale du 14 février. Je trouve scandaleux que vous ne m'écriviez qu'une fois tous les 15 jours et qu'en plus, vous n'écriviez qu'une petite carte postale. Je vous écris plus souvent et plus en détail, même si je me trouve dans des conditions tout à fait différentes. Il fait maintenant de plus en plus chaud. Les films photographiques fondent. Nous dormons bien sûr dans la cour, mais cette nuit, il y a eu un vent terrible, des éclairs et du tonnerre. Nous avons pensé qu'il allait y avoir un orage, nous avons rapporté les lits à l'intérieur et nous nous sommes empressés de nous couvrir avec des imperméables. Mais comme il n'a pas plu, nous sommes ressortis et la tempête sèche a cessé. En ce moment, ma collaboratrice et moi recueillons des devinettes et des contes. Nous avons déjà recueilli une centaine de devinettes environ. Les contes sont très difficiles à collecter. Il faut d'abord les collecter en langue indigène et c'est fastidieux. Ensuite, les traduire et en fin de compte, écrire un texte français compréhensible. Tout cela nous est raconté par les enfants. Ils sont très excités. Pour chaque devinette, ils reçoivent 5 coquillages. Pour chaque conte, 10. Et bien sûr, tout cela nous coûte une fortune. 1 franc par semaine. C'est un travail très intéressant. Dans quelques jours, nous partirons encore dans les villages voisins. Mais cette fois-ci, ce sera à dos d'animal, parce qu'il n'y a pas de route pour les voitures. Je me sens très bien, et j'en ai aussi l'air. Je vous demande vivement de me dire si vous avez reçu de l'argent par l'intermédiaire de Sonia pour février et mars. Sinon, il n'y a rien de neuf. Nous travaillons tous. Nous noircissons du papier. Je vous embrasse très très fort. Votre débat.
Marianne Lemaire, que dit cette lettre de la manière de faire de l'ethnologie à l'époque ?
Pour commencer, je dirais que, enfin, on sent très très bien à travers cette lettre le souci que Deborah Lipschitz a de rassurer sa famille. Il faut savoir que la famille de Deborah Lipschitz ignore totalement qu'à ce moment-là, elle se trouve toute seule sur le terrain avec Denise Paulm. Deborah Lipschitz prend le plus grand soin à cacher le fait qu'elles ne sont que deux femmes sur le terrain. Elle reste toujours très très vague dans ses formulations. Donc c'est peut-être le premier enseignement de cette lettre. Ce que je retiens également, c'est la manière dont elle parle des enfants.
Voilà.
C'est les enfants ont à cette et là Deborah Lipschitz, Denise Paulm le partage avec Marcel Griol, Michel Léris. Les enfants sont parmi ceux qui parlent français, puisqu'il y a une école à Sanga. Donc les enfants parlent français, donc ils jouent le rôle d'interprète, mais aussi souvent d'informateur. En fait, les ethnologues de l'époque ont un peu le sentiment que la parole de l'enfant est plus authentique, plus libre aussi. Les adultes auraient tendance à dissimuler les choses, à vouloir à contourner les questions, alors que les enfants auraient une sorte de sincérité que les adultes auraient perdue. Et il y a une autre lettre dans laquelle la maman de Deborah Lipschitz semble avoir dit « Oui, mais les enfants, ils doivent vous raconter des mensonges. » Et elle s'en défend. C'est amusant parce qu'elle a vraiment ce sentiment. Elle dit « Non, ils sont plusieurs, donc ils se contrôlent les uns les autres. » Et puis, bon, même s'ils disaient des mensonges, ces mensonges seraient intéressants comme tels. » Et c'est très intéressant de voir cette relation avec les enfants.
Alors, ce qu'il faut bien préciser, c'est que ce travail de terrain, on est en 1935, se fait dans un contexte absolument colonial, Marianne Lemaire.
Tout à fait, oui, là on est en pleine situation coloniale. Les ethnologues de l'équipe de Marcel Griol, comme Deborah Lipschitz et Denise Paulm, sont installés dans un campement érigé par l'administration coloniale à leur intention. Donc elles sont tout le monde est très confortablement installé.
Elles ne mangent pas la nourriture, entre guillemets, indigène.
Elles ont leur cuisinier. Absolument, elles ont leur cuisinier. Enfin, elles sont très très bien entourées. Même pour leurs enquêtes, elles sont accompagnées. Et ma foi, elle ne critique absolument pas le principe de la colonisation. Elle l'accepte. En revanche, elles ont peut-être des relations plus tendues avec l'administration coloniale dans la mesure où elles sont des femmes et dans la mesure où l'administration coloniale avait des attentes à leur égard un peu particulières parce qu'elles étaient des femmes.
On parle des femmes ethnographes de l'entre-deux-guerres. Travaillaient-elles justement différemment des hommes? On en parle juste après Billie Holiday, qui est née en avril 1915, il y a tout juste 100 ans. On écoute All the Way sur RFI.
When somebody loves you, it's no good unless he loves you.
Une émission 100% féminine aujourd'hui autour de la question qui sont les pionnières de l'ethnographie française. Marianne Lemaire, la mission Paulme-Lifschitz, c'est une mission, vous l'écrivez, classique de l'entre-deux-guerres, mais c'est aussi une mission féminine et on va voir quelle différence ça fait. Est-ce que Denise Paulme et Deborah Lifschitz ont eu plus de relations avec les femmes sur le terrain? Écoutez ce qu'en disait Denise Paulme, toujours en 1993 sur France Culture.
Nous abordions souvent, Deborah et moi, au cours de nos soirées, comment nos interlocuteurs, les gens du village, nous percevaient, si on nous voyait. Car après tout, nous étions des femmes tout de même, mais nous menions une vie qui n'avait rien de commun avec celle des femmes d'Ogon. Nous allions dans des endroits en principe interdits aux femmes, des cavernes où sont conservés les masques par exemple. Nous faisions le même travail que nos camarades masculins et nous ne distinguions pas beaucoup d'eux. Nous portions même le short, au fait, ce qui était plus commode pour escalader la falaise ou nous accroupir de temps en temps. Alors, vraiment, je ne sais pas quelle image ils pouvaient avoir de nous. Et c'est une question que je me suis toujours posée. Autrement, en tant qu'ethnologue, on était accepté comme une fantaisie des Blancs, et il y en avait d'autres. Ils les acceptaient avec une sorte de fatalité enjoué, même, je peux dire. Car le souci qu'ils avaient, avec quel soin ils veillaient sur nous, j'avais toujours l'impression d'une nourrice, d'une nurse un peu possessive, penchée sur nous.
Réaction Marianne Jamère à cette archive.
Alors dans ses écrits, Denis peut-être moins là elle manifeste pas tellement de regrets. Elle parle de façon un petit peu amusée de la situation, mais dans ses écrits, elle a beaucoup manifesté son regret de n'avoir pas pu instaurer de véritable complicité avec les femmes. Enfin, elle en parle. Il y avait l'obstacle de la langue pour parler de sujets sensibles comme les règles, c'était compliqué. Il y avait le fait qu'elles étaient habillées comme des hommes, qu'elles pénétraient comme les hommes dans des endroits traditionnellement interdits aux femmes. Mais je pense qu'il y avait un petit peu autre chose, c'est-à-dire que, comme elle le dit dans un texte où elle retrace ses souvenirs, elles avaient un autre projet. Elles n'avaient pas envie de se limiter à ce pourquoi on les avait envoyées sur le terrain. Elles avaient un peu envie d'asseoir leur légitimité en étudiant des sujets plus importants et plus vastes que la seule vie féminine.
Parce qu'au fond, ça arrangeait à l'époque l'administration coloniale que des femmes européennes viennent dialoguer avec des femmes africaines dans les villages.
Alors c'est vrai qu'il y avait cette dimension également. Il y avait l'idée que des ethnologues pouvaient remplir une sorte de mission civilisatrice au féminin, comme pouvaient le faire sur le terrain des infirmières ou des institutrices. Donc c'est la raison pour laquelle on demande à Denise Paulme et Déborah Lifshitz de faire une intervention à l'école de Sanga. On leur demande ce qu'elles pensent du rôle des Dogons dans la repopulation de la France. Donc il y a ce souci de remplir les attentes de l'administration coloniale.
Et on sent bien dans les lettres qu'elles sont agacées par cette assignation et qu'elles veulent vraiment y échapper. Puis elles sont aussi très simplement agacées par la figure un peu caricaturale du colon blanc, vaguement alcoolique, très très misogyne.
Tout à fait, elles sont complètement agacées, comme vous dites, par les visites intempestives des administrateurs coloniaux qui viennent souvent en groupe voir si elles résistent au climat, si elles tiennent le coup, si elles ne se sont pas encore crêpé le chignon. Bon, elles attendent avec impatience la saison des pluies qui va couper les routes et qui va faire qu'elles ne pourront plus avoir de visiteurs, des visiteurs qu'elles appellent dans leurs lettres les barbares, les sauvages, contre lesquels elles sont très virulentes.
Mais quelle est réellement la particularité de leurs travaux en tant que femmes? Est-ce que se dégage réellement une ethnologie ou une ethnographie féminine, une manière différente d'exercer ce métier, Marianne Lemaire?
Je le pense, ne serait-ce que parce qu'elles ont réalisé des terrains plus longs que leurs collègues masculins, ce qui leur permettait d'aborder d'autres sujets, d'instaurer d'autres relations, même si elles n'étaient pas aussi satisfaisantes que Denise Paulme l'aurait souhaité, d'autres relations avec leurs informateurs, et pour cette raison-là, elles ont en fait ce qu'on appelle des missions intensives, ce qui leur a permis de travailler autrement et de produire des textes scientifiques autres que ceux de leurs collègues masculins.
Voilà, parce que ce que vous mentionnez aussi dans la production de textes, c'est que on voit qu'elles restent extrêmement rigoureuses et qu'elles se refusent, mais c'est également le cas de Germaine Tillon, à produire des journaux intimes de leur mission, à basculer du côté de, alors on n'appelait pas ça l'autofiction à l'époque, mais à basculer du côté du journal intime comme a pu le faire Léris avec l'Afrique fantôme, par exemple, même si littérairement c'est absolument magnifique, mais elles sont restées vraiment dans un strict contexte scientifique.
Oui, c'est vrai. L'épreuve du terrain passé, une fois qu'elles ont réussi à montrer qu'elles savaient faire du terrain, qu'elles avaient pu réunir des données, il fallait encore qu'elles montrent à leur retour qu'elles savaient les analyser et les organiser dans des textes scientifiques. Et contrairement à leurs collègues masculins, qui pour la plupart ont écrit des textes très personnels, des récits de voyage, des articles de reportage, contrairement à eux, elles ne l'ont pas fait. Elles n'ont écrit que des écrits strictement scientifiques où elle mettait complètement de côté la dimension personnelle. À une époque où un Marcel Griaule va écrire Les Savoirs légendaires, écrira Dieudo, à une époque où Michel Léris a publié son journal de voyage pendant la mission Dakar-Djibouti, elles ne s'autoriseront pas cela et elles ne produiront que des textes strictement scientifiques.
Comment prend fin la mission Paulme-Lifshitz? En fait, elles sont restées sur le terrain jusqu'à épuisement de leur bourse?
Tout à fait, oui. Denise Paulme conclut un de ses articles: les 50 000 francs de la bourse auront été bien utilisés.
Alors, on va voir ce qui est arrivé à ces deux femmes après cette mission, parce que ces lettres permettent aussi de mesurer l'amitié qui les a réellement unies, amitié prématurément stoppée par la mort de Déborah Lifshitz en déportation. Écoutez un extrait du journal de Michel Léris, lu par Jean-Louis Trintignant.
28 janvier. J'imagine, sans intention d'en tirer parti, le thème suivant pour un conte. Dans une ville opprimée, les habitants finissent par être obligés à un choix positif entre faire partie du peloton d'exécution et faire partie des fusillés. Il n'y a plus en effet que ces deux groupes face à face. 20 mars. Demain à 11h à l'église Saint-Roch, service religieux à la mémoire de Max Jacob, mort au camp de Drancy. 2 mai. Après la mort de Deborah Lifschitz au camp d'Auschwitz. 17 mai. Rêve. Je dois être fusillé.
Donc en fait, Deborah Lifschitz vivait dans un appartement prêté par Michel Leiris à Paris quand elle a été arrêtée, Marianne Lemaire.
Tout à fait. Elle a d'abord vécu au début de la guerre au Musée de l'Homme même, où elle dormait dans le bureau qu'elle partageait avec Denis Paulm. La pension dans laquelle elle résidait ayant fermé en 1939, elle a d'abord habité au Musée de l'Homme. Et puis, lorsque les premiers membres du réseau du Musée de l'Homme ont été arrêtés en février 1941, elle a déménagé dans l'appartement de Michel Leiris, que lui-même n'occupait plus à ce moment-là parce qu'il était à Boulogne pour occuper l'appartement de son beau-père, Daniel-Henri Kahnweiler.
Donc, l'amitié entre les deux femmes a survécu à leur retour d'Afrique. Mais Deborah Lifschitz, on le disait tout à l'heure, a été naturalisée en 1937. Pour quelle raison reste-t-elle à Paris, dans ce milieu très exposé? Elle sait que potentiellement, elle peut être arrêtée. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, Marianne Lemaire?
Je pense que le fait d'être naturalisée l'a rassurée et comme beaucoup d'autres juifs à l'époque lui ont donné à penser qu'elle ne craignait rien. Par la suite, elle dit qu'elle ne veut pas s'éloigner de ses amis, que sa vie est là désormais et qu'il n'est pas question pour elle de partir. En 1940, juste après que les premières lois antisémites aient été édictées, elle fait avec l'aide de Michel Leiris un dossier pour une demande d'exception à la loi antisémite qui empêche les juifs d'occuper des postes dans la fonction publique. Donc on ne sait pas. Alors on a ce document, on ne sait pas si elle l'a envoyé, on sait encore moins quelle réponse lui a été donnée. Toujours est-il qu'elle est arrêtée en 1942. Et c'est effectivement en 1944 que Michel Leiris apprend qu'elle est morte.
On l'a su très tard, en fait.
Ils le savent très tard et en même temps, plus tôt que ça n'aurait pu être le cas, ils l'apprennent par un mot de Marie-Elisa Nordmann, une amie du professeur Marcel Cohen, qui était un ami de Deborah Lifschitz. Et Marie-Elisa Nordmann arrive à faire, qui elle-même a été déportée à Auschwitz, arrive à faire parvenir en France un petit mot disant « Oncle Bob », c'est-à-dire Marcel Cohen, ne reverra plus sa meilleure collaboratrice. Et donc là, tout le monde comprend que Deborah Lifschitz est décédée.
Elle a été dénoncée par un journal collaborationniste, vraisemblablement.
Tout à fait, oui. C'est un article écrit par Jacques Ploncard dans le journal collaborationniste Au Pilori, qui jette la lumière sur elle, ainsi que sur le milieu du Musée de l'Homme de manière générale. Mais elle y apparaît comme un personnage central.
Mais elle n'est pas tout de suite envoyée à Auschwitz. Elle est au Tourelle et puis ensuite transférée à Drancy. Et pendant ce temps-là, Denis Paulm et Michel Leiris essaient de la voir, continuent à avoir des relations avec elle.
Oui, c'est-à-dire quand elle est arrêtée en février 42, elle n'est pas arrêtée en tant que juive. Elle est arrêtée en raison d'activités politiques, entre guillemets, douteuses. Donc une enquête est lancée qui doit durer 6 mois pour voir si effectivement elle avait des activités politiques douteuses. Cette enquête révèle au mois de juin que ce n'est pas le cas, que l'administration n'a rien à lui reprocher. Malheureusement, le fait d'être juif à ce moment-là suffit à justifier son transfert à Drancy, puis sa déportation.
Les archives ont tout révélé aujourd'hui. L'ouverture de ce fonds Deborah Lifschitz a tout révélé aujourd'hui, Marianne Lemaire?
C'est difficile à dire. Non, on pourra encore trouver, je pense, de nouveaux éléments sur les circonstances de son arrestation.
Est-ce que, plus largement, ces lettres de Sanga montrent, au fond, le début d'une conquête, la voie vers l'émancipation des femmes? Est-ce que ces missions ethnographiques ont été un peu pour ces femmes une chambre à soi, pour reprendre le titre d'un livre de Virginia Woolf? La manière de les écrire dans des lettres?
Oui, puis les lettres, effectivement, ont été les lettres elles-mêmes. Les lettres ne sont pas seulement des textes à travers lesquels on apprend des choses sur la personnalité des uns et des autres, sur leurs relations, sur la recherche. Ce sont aussi en elles-mêmes la manière qu'elles ont trouvé de s'affirmer comme de futurs ethnologues, comme les futurs ethnologues et scientifiques qu'elles souhaitaient devenir, ce qui n'était absolument pas acquis à cette époque. Elles auraient pu se limiter à faire un terrain et ne pas devenir pour autant les ethnologues reconnus qu'elles sont devenues.
Et c'est intéressant à la fois d'un point de vue scientifique et à la fois d'un point de vue personnel, puisque certaines de ces lettres, notamment celle de Denise Paulme, sont adressées à André Scheffner, ethnomusicologue, dont on a entendu les sons collectés tout à l'heure, qui sera son futur mari.
Tout à fait, oui.
Et elle a accepté, à la fin de sa vie, que ces passages plus intimes soient remis dans les lettres, ce qu'elle avait un petit peu censuré à un moment lors de la première publication.
Alors oui et non, parce que les lettres qu'elle a publiées en 1992 sont un peu des lettres tronquées, c'est-à-dire qu'elle nous a privé même de l'adresse des lettres. Cher André n'apparaît pas, je t'embrasse, un éventuel je t'embrasse n'apparaît pas. Toutes les choses un peu plus intimes ont été gommées par elle, et malheureusement elle a probablement, mais l'avenir dira peut-être que ce n'est pas le cas, mais pour le moment nous n'avons pas en notre possession les originaux de ces lettres.
En tout cas, pour l'instant, on peut lire ces lettres de Sanga éditées par vous, Marianne Lemaire, publiées par les éditions du CNRS. Et puis j'invite aussi nos auditeurs qui le peuvent à aller voir l'exposition Léris et compagnie au Centre Pompidou-Metz jusqu'au 14 septembre. Merci Marianne Lemaire et merci à Cécile Bonici.
Merci beaucoup.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
Et la semaine prochaine, nous parlerons de l'invention de la science au 19e siècle, des rapports houleux entre la science et l'Église, du positivisme, des mutations de la technologie. Et puis lundi, bien sûr, vous retrouvez Caroline Lachowski. À vendredi prochain.